voudrais commencer par vous dire mon plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans notre grand amphithéâtre, de vous retrouver peut-être aussi à ce rendez-vous des GECO. Je suis Julia Bonacorsi, vice-présidente Transition, Sciences et Sociétés, Relations Partenariales de l'Université Lumière Lyon 2. Et donc première vice-présidente de la métropole de Lyon à l'économie, à l'emploi, au commerce, au numérique et à la commande publique. Madame Cathy Verquin, directrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque de France. Monsieur Vincent Bignon, économiste à la Banque de France. Cher Pascal Lemerreur, directeur général des Journées de l'économie. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, cher public des GECO, je voudrais vraiment commencer par saluer le très beau titre de cette 15e édition, je crois, hein, c'est ça, 15e 18e, ah voilà, vous voyez. Donc vieux démons et nouveau monde, au pluriel. Voilà, je crois qu'évidemment, on partage cette idée que pour se projeter dans le monde qui vient, il faut d'abord interpréter le monde comme il va, comme dirait l'autre, ses paradoxes, ses excès, et sans entrer plus en détail dans l'actualité, on voit à quel point la question de trouver des lieux, des espaces, des supports et des manières de rendre accessibles au plus grand nombre les connaissances issues des recherches scientifiques qui sont relatives aux grands problèmes économiques est vraiment absolument essentielle. La très belle programmation cette année, qui est vraiment d'ampleur nationale, internationale, qui se fait aussi autour de grandes figures, autour de prix Nobel, autour aussi d'intervenants, intervenantes très, très variés, étudiants, étudiantes. On a du on, a du off. Je salue cette programmation et cette richesse qui est absolument l'ADN de ces GECO. Je salue aussi la mixité qui est très, vraiment très vertueuse des publics, étudiants, étudiantes, enseignants, enseignantes, chercheurs, acteurs publics, les acteurs du monde de l'entreprise. Pour l'Université Lyon 2, et nous pensons vraiment le rôle d'une université publique, de la même manière, c'est-à-dire œuvrant au dialogue sciences et société, et on a besoin de toute cette variété d'acteurs autour de la table pour discuter, pour débattre, pour réfléchir ensemble. À Lyon 2, on travaille les questions de l'économie avec cette perspective qu'on appelle aussi de science avec et pour la société. Donc dans nos missions de formation, nous avons à l'Université Lyon 2 une faculté de sciences économiques et de gestion qui forme alors les futurs enseignants, enseignantes, mais aussi les professionnels de demain. C'est à peu près 2500 étudiants. Et puis, comme vous êtes aussi dans une université de sciences humaines et sociales, les questions qui seront débattues pendant ces journées de l'économie, évidemment, elles traversent aussi bien l'histoire de l'industrie, par exemple, que la sociologie, à l'appui, en fait, de ce qui se produit dans les laboratoires de recherche en sciences économiques, le GAT, le LAET, un laboratoire triangle aussi, qui mixe différentes disciplines en sciences de gestion. La liste est longue, mais en tout cas, la manière de faire et de penser la recherche scientifique et la production des savoirs scientifiques à Lyon 2, on le travaille toujours en lien avec ce qu'on appelle la société au sens large, c'est-à-dire les entreprises, les organisations de l'économie sociale et solidaire, les associations, les acteurs des collectivités territoriales, des collectifs citoyens également. Donc je me réjouis très sincèrement de la contribution de l'université à ces GECO, du partenariat qui se renforce aussi avec notre université à travers une nouvelle convention. Je remercie pour leur engagement les intervenants, les collègues, les organisateurs de sessions qui ont œuvré pour cette édition. Et puis, j'adresse plus particulièrement mes sincères remerciements donc, au directeur des GECO, Pascal Lemerreur, à la Fondation Innovation Transition, à Hélène Martineau, aux mécènes, aux partenaires, à Martine Séville, directrice de l'unité de formation et de recherche sciences économiques et de gestion de l'université, à Claire Sylvan, enseignante-chercheuse, et puis à toutes les équipes qui rendent possible ces journées particulières que nous sommes vraiment très très fiers d'accueillir à l'université. Je vous souhaite d'excellentes journées.
Merci beaucoup pour ces propos d'accueil. On est très heureux de se retrouver ici à Lyon 2. Je vous rappelle qu'en 2008, en pleine crise financière, on était dans le même amphithéâtre en train de se demander si on allait en sortir, tous ensemble. Donc, c'est un long chemin. 18 ans, ça veut dire que je regarde les lycéens en haut et certains n'étaient pas nés quand on a lancé les journées de l'économie. Moi qui avais l'impression que c'était quelque chose de nouveau que j'avais créé, d'un seul coup, je prends un coup de vieux avec ces 18 ans. Mais je pense que c'est toujours aussi utile. Hein. C'est quand on regarde, plus que jamais, à mon avis, l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à décrypter les mutations que nous sommes en train de vivre de manière accélérée, je dirais, tant à l'échelle locale d'ailleurs qu'au niveau global. Je pense qu'il faut toujours faire le lien entre ce qu'on peut vivre chacun, quasiment dans notre vie individuelle, et puis les grandes mutations du monde. On a l'impression que tout ça est complètement séparé, alors qu'en fait, il y a un nombre incroyable d'interactions. Et quand on revient d'un seul coup à discuter de la réforme des retraites, on s'aperçoit qu'entre le global et le local, il y a des choses quand même qui sont terriblement liées. Ça va être à vous, je pense, au travers des 70 conférences, tables rondes, de repérer ce que peuvent être les stratégies pour maîtriser les vieux démons que nous voyons ressurgir un peu partout, et puis aussi d'arriver à anticiper les voies possibles des nouveaux mondes qui sont en train de se profiler. J'espère que ça vous donnera un peu des repères, enfin que ça va vous éclairer sur un certain nombre de choses. Moi, je pense qu'une conférence est réussie quand il y a un peu de bien-être, quand on ressort, quand on se sent comme un peu plus tous intelligents parce qu'on a entendu des choses et on se dit mais oui, c'est clair ça. Et j'aimerais bien que ça vous apporte quelque chose et puis que ça donne des envies aussi. Quand je vois tous les lycéens et étudiants, je pense qu'il y a tellement d'analyses à construire aujourd'hui que si certains ont envie d'aller plus loin, que ça les oriente dans leur formation, dans leur choix de carrière, ce serait formidable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation en France assez curieuse. C'est difficile d'arriver à se contenter d'un débat franco-français sur le vote du budget. On a l'impression qu'on n'a plus que ça dans les médias, comme si c'était un peu la question centrale. Et on demande aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Et on voit des gens être pessimistes, assez inquiets sur cette situation. Moi, je pense que le but, quand même, dans les journées de l'économie, c'est de voir qu'il y a d'énormes défis qu'on va devoir relever et que celui qui nous occupe beaucoup aujourd'hui en France nous paraîtra peut-être dans un an ou deux, quand même, comme quelque chose qui était très limité par rapport aux problèmes qu'on devait résoudre. C'est-à-dire, quand on regarde les crises environnementales qui s'intensifient, quand on regarde les tensions géopolitiques qui sont en train de se renforcer, quand on regarde aussi la situation de l'Europe, qui me semble bien démunie pour arriver à parler d'une seule voix qui pèserait sur la scène internationale, on a là peut-être quand même des sujets sur lesquels il va falloir se pencher, et vous allez voir que ça va traverser quand même tout le programme des journées de l'économie. Je crois aussi qu'on vit une véritable révolution technologique, alors souvent symbolisée par l'essor de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, ce qui est un peu dommage, c'est un peu comme dans une partie de ping-pong, on a l'impression qu'il n'y a que deux joueurs, les États-Unis et la Chine, qui se renvoient la balle. Je ne sais pas si l'Europe fait le rôle de filet, mais en tout cas, on a l'impression que dans cette révolution technologique, on devrait avoir certainement un rôle et qu'il faudrait en prendre réellement conscience. Là, on est sur les véritables sujets que nous allons aborder. Et quand je regarde, moi, la situation, contrairement un peu au pessimisme des Français, à court terme, la situation économique de la France, elle n'est pas si mauvaise que ça. Hein. Quand on regarde les derniers chiffres de l'INSEE, on pourrait dire... Oui, si on regarde en termes de trimestre, l'activité économique se maintient. On a de superbes PME, ETI qui vont bien sur les territoires. Quand on regarde chaque territoire séparément, on a beaucoup de bonnes nouvelles dont on ne parle pas, d'entreprises qui, tous les jours, créent de la valeur et qui fonctionnent bien. Et je trouve qu'entre ce pessimisme latent, je pense, qui est très médiatisé, et cette réalité, il faudrait déjà qu'on ait une meilleure communication. Mais par contre, quand on passe du court terme au moyen et au long terme, là, la situation est beaucoup moins enviable. C'est-à-dire que si on regarde comment on est positionné dans les nouvelles technologies, Eh bien là, c'est beaucoup plus inquiétant. On a des entreprises qui sont plutôt dans le milieu de la technologie ou des technologies traditionnelles. Et là, on a de véritables enjeux à relever. Donc, je crois qu'on doit s'intéresser un peu à ce que nous pouvons faire, quelles sont les stratégies. Et on va dérouler ces réflexions sur tous ces sujets avec des spécialistes qui se sont mobilisés. Alors, on peut dire qu'on a 3 prix Nobel d'économie cette année. Je dirais, mais c'est un peu, entre guillemets, l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on a une forêt d'économistes, de spécialistes aujourd'hui, que nous envient beaucoup de pays étrangers. Sur la scène internationale, on a vraiment d'excellents spécialistes. Donc, ça, c'est une grande chance. Ils sont venus au GECO, enfin, ils sont venus pour vous. Donc, je pense que vous avez de la chance d'avoir cet échange. Et puis, on a de la chance sur les qualités humaines de ces chercheurs, parce que, après tout, ils pourraient rester dans leur laboratoire, ils pourraient continuer à avoir des prix, et ils viennent pour participer au débat public, dire, avec ce qu'on sait, voilà raisonnablement ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut dire, ce qu'on pourrait faire de mieux. Je veux dire, très souvent, quand je regarde les travaux de ces économistes, il y a un véritable effort pédagogique pour non pas être engagé sur un terrain politique, mais au moins dire, avec ça, on sait ce qui marche moins bien, ce qui pourrait être efficace. On n'a peut-être pas tant que ça de moyens financiers à dépenser au niveau de l'argent public. Peut-être qu'il vaudrait mieux l'utiliser là où c'est le plus efficace. Donc, je pense que c'est une véritable chance d'avoir cet échange, et j'espère que vous allez en profiter. Mais le mieux pour commencer, c'est de savoir un peu qu'est-ce que vous pensez, vous, des sujets économiques. Qu'est-ce qui vous fait peur? Quels sont les défis, à votre avis, qui sont à relever? Comment vous vous informez en économie? On aimerait bien savoir avec quels médias ou quel réseau social vous trouvez l'information. Et finalement, la France, vous avez confiance ou vous pensez que le navire est en train de dériver? Eh bien, toutes ces questions, vous y répondez. Et c'est à partir de vous que commence les GECO, avec le micro-trottoir que va nous présenter Vincent Bignon, qui a travaillé d'arrache-pied, il faut le dire, pour arriver à monter cette partie-là. Et vous allez retrouver peut-être des villes que vous connaissez bien, où on a été vous interroger.
Oui, tout à fait. En fait, c'est quelque chose qu'on fait en partenariat avec les GECO depuis longtemps, la question du micro-trottoir et la Banque de France. On est présent dans tous les départements de France. Et on s'est dit comment refléter ça. Évidemment, on s'est dit qu'il fallait interroger des gens qui habitaient à Lyon, mais aussi des gens qui habitaient à Clermont, parce que la région aura. Et puis, on s'est dit qu'il y avait une autre ville qui pouvait être intéressante, c'était Caen. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment être dans l'endroit où l'économie se fait. Et ce n'est pas seulement à Paris. Et pour reconnaître ça, on a posé les questions dont Pascal a parlé, avec l'idée, effectivement, que ça nous permet assez facilement d'avoir une forme de retour de est-ce qu'on colle, en fait, dans le programme, est-ce qu'on colle dans nos sujets d'intervention avec les préoccupations que l'on partage, mais en fait, nous, on sait pour nous, mais on ne sait pas pour vous. Et donc, c'est maintenant qu'on vous projette les réponses qu'on a eues.
C'est assez folklorique en ce moment.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est la précarité pour les étudiants.
La situation des étudiants et des jeunes.
On a l'impression que c'est plus compliqué aujourd'hui d'atteindre un niveau de vie qui est raisonnable.
Un sujet qui m'interpelle, c'est souvent la dette.
Ou la dette de l'État.
Le social.
C'est surtout la précarité.
Les courses, le quotidien, pouvoir manger.
Le gros décalage, en fait, entre l'inflation et les salaires.
Je sens qu'ils vont nous bloquer nos retraites, qu'ils vont nous supprimer plein de choses. Nous.
Retraite ? Inflation et l'épargne.
Oui, c'est la morosité ambiante.
Peut-être l'IA risque d'avoir un impact aussi sur les emplois. Et puis ça aussi, ça nous inquiète.
Sécurité sociale, la santé, l'éducation, enfin bon, tout ça, ça me préoccupe.
On a peur qu'il n'y ait pas de budget qui sorte avec la difficulté à maintenir un gouvernement en place.
La presse écrite.
La montagne. Le Monde, le Courrier international.
Je m'informe avec les revues de sciences économiques.
C'est une bonne source d'information pour moi, Charlie Hebdo. Ouais.
France Info.
BFM Business.
France Inter et Arte.
Surtout TF1.
C'est à vous.
Les chaînes d'info en continu, c'est assez intéressant.
C'est vrai qu'on regarde souvent, nous, ce qui est facile d'accès, BFM et CNews.
CNews.
CNews pour madame, BFM pour monsieur.
Moi, je ne vois pas trop BFM parce que BFM, pour moi, ce n'est pas la référence.
C'est essentiellement des podcasts.
Clément Viktorovitch, qui, je trouve, fait un travail d'utilité publique.
Vous avez aussi l'ancien directeur de la DGSE, qui est souvent sur YouTube.
Dominique Seux, le directeur technique des Échos.
Et j'aime bien écouter l'influenceur Hugo Décrypte.
Hugo Décrypte.
Voilà. Bah, pas mal les échanges, au boulot on en parle pas mal, sur LinkedIn.
Forcément, les réseaux sociaux, c'est quand même la première source d'information aujourd'hui.
On va forcément beaucoup Internet.
Bon, bah, Internet.
Vincent, tu as peut-être quelques remarques à faire sur ce micro-trottoir que tu as piloté.
En fait, on a trouvé ça assez... Enfin, moi, qui fais pas mal, mais comme Cathy, on passe beaucoup de temps en fait, à discuter avec autant de personnes qui veulent bien discuter avec nous. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très représentatif de ce qu'on ose parfois me dire ou de ce qu'on me dit assez fièrement. Ça dépend un peu de l'attitude de chacun.
Cathy, peut-être que tu as des remarques à faire par rapport à ce que nous disent les Français, finalement, sur les défis qu'on va devoir relever, puis comment on s'informe. Moi, ça, évidemment, ça m'intéresse énormément de voir comment vous vous informez en économie.
Oui, merci Pascal. Donc, bonjour à toutes et tous. Effectivement, j'avais regardé un peu en avance de phase le micro-trottoir. J'ai pris un certain nombre de notes. Première chose, sur les sujets qui intéressent les Français, je me dis que, franchement, longue vie à l'économie et longue vie au GECO. Parce que je ne sais pas si avant, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on va mettre le avant, plusieurs fois dans mes propos, vous verrez, je fais un peu boomer, mais bon, c'est avec l'âge, voilà. Mais le avant, peut-être la génération de mes parents, je ne sais pas si on avait fait ce micro-trottoir, je pense qu'il y aurait eu moins de sujets, je pense qu'ils auraient parlé, alors peut-être l'inflation, parce qu'il y avait le sujet de l'inflation, et puis le chômage. Je ne sais pas si on aurait eu autant de thèmes. Finalement, quand je regarde là, je vois, il y a l'inflation, le pouvoir d'achat, les retraites, les dettes publiques, la situation des étudiants, la précarité des étudiants, les inégalités. Voilà, donc je veux dire que ça justifie bien le nombre de tables rondes qu'on va mettre en place au GECO, parce que finalement, il y a une foultitude de sujets qui intéressent aujourd'hui les Français. Alors, je trouve ça plutôt réjouissant, c'est assez chouette, qu'il y ait plein de sujets qui intéressent, de sujets économiques qui intéressent les Français. Bon, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'effectivement, on voit bien le prisme, l'angle d'attaque est souvent quand même un angle d'attaque un peu anxiogène. C'est-à-dire, on est inquiet sur le pouvoir d'achat, on est inquiet sur l'inflation, même quand il n'y en a plus, en fait, ou plus, enfin, en tout cas, une inflation modérée. On est inquiet sur la précarité, les inégalités. Voilà, on a quand même un prisme qui est quand même assez anxiogène. Donc, je pense que le rôle qu'on a, nous, avec les tables rondes et les GECO d'explication, je pense que c'est vraiment un rôle qui est vraiment stratégique et très important. Alors, si j'en viens maintenant sur les sources d'information, alors quand même dans le micro-trottoir, pour un économiste comme Vincent, on n'est pas sur la loi des grands nombres, sur les nombres de personnes qui ont été interrogées. Je ne sais pas si ça représente complètement la réalité sur le terrain. Alors, à la fin, il y a eu un petit rattrapage en disant, oui, c'est quand même un peu les réseaux sociaux, beaucoup les réseaux sociaux et de la consommation rapide sur Internet. C'est vrai que, je me dis, là encore, je vais faire mon petit paragraphe boomer, mais quand j'étais étudiante, j'étais plutôt à lire Alternative économique, Le Monde diplomatique, je découpais les articles, je faisais des fiches sur des fiches Bristol, alors ça ne parle plus à personne, mais voilà. Donc on avait un peu une information qui durait, qu'on structurait. Là, on voit qu'on est plus sur du vite informé, vite consommé, mais vite oublié. Voilà. Voilà, donc alors peut-être qu'on parlait aussi de la révolution numérique qu'on connaît et l'IA. Moi, je suis une techno-optimiste. Je me dis que justement, avec les sources d'IA, on aura peut-être de l'information plus structurée. C'est vrai que quand on pose une question à l'IA, quand on prompte bien, on a une réponse mieux structurée que ce que l'on peut avoir quand on fait un Google de base où on a une foultitude d'informations, ou quand on scrolle, comme on dit maintenant, sur les réseaux sociaux, où on a des bouts d'informations et au bout de 12 secondes, on passe au poste suivant. Voilà, peut-être qu'effectivement, avec les sources d'IA, on aura des réponses peut-être plus structurées. En tout cas, il faut croire à cette promesse. Et en tout cas, ça justifie, quand je vois des sources d'informations qui sont un peu, je dirais, très éclatées, très dispersées, eh bien, une fois de plus, ça justifie les GECO, où on a des tables rondes structurées avec souvent une partie académique où on pose le sujet et puis ensuite on débat, et c'est important de débattre plutôt que de combattre, et de débattre avec des professionnels. Et maintenant, c'est vrai que dans les tables rondes, on ne fait on fait de plus en plus le pont entre la partie académique et la partie, je dirais, acteur du terrain, les chefs d'entreprise, les professionnels de l'économie sociale et solidaire. Et ça, je crois que c'est vraiment important de faire le pont entre l'économique et l'académique et les acteurs économiques. Voilà, donc vraiment longue vie au GECO.
Merci. Emeline, quelques réactions sur cette perception des Français sur la situation et l'information ?
Alors, pour, bonjour à chacune et à chacun. Pour compléter ce qu'a dit Cathy, moi, ce que j'y ai vu, enfin, ce qui est caché, c'est vraiment pour compléter là, à chaud, c'est la question du temps, en fait, la perception du temps que l'on a. On vous pose une question dans la rue, vous répondez spontanément ce qui vous traverse l'esprit. Dans le moment, ce qu'on entend beaucoup, c'est la question du pouvoir de vivre, en fait, parce que même derrière la dette, c'est vraiment la question du pouvoir de vivre. Et ce que je n'ai pas entendu du tout, c'est normal hein, de penser dans l'instant, c'est le moyen terme, le long terme, et ça recoupe un peu ce que disait Pascal en introduction, c'est-à-dire, oui, en fonction des sources d'informations qu'on mobilise à titre personnel, on est dans l'instant présent, et en même temps, il y a des crises globales qui vont nous impacter dans notre quotidien, dont on peut émettre l'hypothèse que la majorité des sources d'informations que nous avons à notre main le traitent un peu moins. Là, je vais faire écho à la COP, par exemple. Bon, ben voilà, il y a une super conférence sur les questions des droits de la nature, etc. C'est étrange parce qu'on est tous dans notre quotidien percutés hein, par exemple, la chute de la biodiversité. Mais on n'en parle pas. Spontanément, ça peut s'entendre, mais par contre, nos sources d'information, les algorithmes ne nous l'amènent pas spontanément. Voilà, donc je voulais insister sur cette question du temps et du coup, remettre la place des GECO et ce qu'a dit aussi notre représentante de Lyon 2 sur la pédagogie, le temps long, le fait d'avoir la chance ici sur notre territoire et en France d'avoir ces événements qui mobilise des acteurs académiques, mais aussi des acteurs de terrain, de la cité, qui partagent des points de vue et de pouvoir tracer, je vais faire la pub entre guillemets des GECO, mais de pouvoir garder la trace en fait de ces échanges, des références, etc., et de permettre aussi bien à la jeune génération qui se forme qu'à celles et ceux qui sont créateurs de valeurs, créatrices de valeurs, dirigeantes, mais aussi pourvoyeur d'opinion, je pense aux électrices et électeurs aussi, hein, de pouvoir sourcer des informations et de se remettre dans ces débats-là. C'est très important, donc merci au GECO d'être à cette 18e séance et de nous permettre de travailler le moyen terme et le long terme.
Merci. À signaler d'ailleurs que 18 ans de GECO, vous pouvez les retrouver sur voilà. touteconomie.org. On a séquencé toutes les conférences, on a mis des documents avec. C'est-à-dire qu'on travaille toute l'année dans l'ombre hein, pour que vous ayez une matière. Et chaque année, il y en a un peu plus. Il y a un certain nombre d'intervenants que je reconnais qui sont présents sur toute économie pratiquement depuis 18 ans. Donc, vous avez comme ça beaucoup de contenu. On continue sur le micro-trottoir. Deuxième partie, oui, bien sûr. Deuxième partie du micro-trottoir. Et vous allez voir que là, c'est parfois un peu exotique.
Oui, en fait, donc on est dans... Quand je dois présenter les GECO à des amis qui ne connaissent pas du tout l'économie, je dis que c'est un peu comme un festival techno, mais en économie. Donc il y a des journées d'économie, mais en fait, on ne se pose jamais la question de savoir ce que c'est qu'un économiste. Et c'était une question que Esther Duflo a abordée l'année dernière à la session d'ouverture. Hein, et donc on s'est dit, en fait, c'est assez naturel d'interroger chacun des personnes qui voulaient bien nous répondre sur, mais c'est quoi pour vous un économiste? Et là, vous allez voir, en fait, on a des perceptions très différentes, en fait, chacun. Alors, c'est vrai qu'il y a une dimension d'achat, quand on répond à chaud, c'est plus compliqué que quand on a le temps de la réflexion. Et puis, il y avait une deuxième question qui était directement en rapport et qui ouvrait un peu sur l'ensemble du programme Vieux démons, Nouveau Monde, qui était, alors, du coup, c'est quoi l'échelle? Quelle est l'échelle à laquelle il faut répondre à ça? Et donc, la question qu'on a posée, toujours dans les mêmes villes, c'est selon vous, la France est-elle encore une grande puissance économique ou l'Europe? Et puis on a laissé les trois petits points de suspension et on vous laisse regarder les réponses.
quelqu'un qui doit être au courant des possibilités futures des échanges monétaires.
Il regarde un peu tout ce qui se passe, l'argent qui sort, qui vient, je ne sais pas.
Il faut qu'il connaisse l'histoire, il faut qu'il connaisse les crises passées.
Qui essaie de prévoir le futur à partir du passé et à partir de théories.
Il va nous quand même nous donner des indicateurs, il va nous donner aussi des règles, il va nous donner des définitions.
Pour moi, c'est un scientifique. L'économie, c'est une science, ce n'est pas une idéologie.
Il peut donner les orientations sur le financement social et c'est également sur le financement économique pour la croissance.
C'est un expert.
Qui gère justement les budgets pour les services sociaux, pour tout ça.
C'est comme dans une famille, la mère de famille qui sait gérer le budget. Et ben voilà, c'est un peu ça.
Il faut qu'il soit honnête et sincère, quoi.
Qui est clair, qui nous dit les choses.
Qu'il ait une vision de terrain.
L'ancrage dans le réel. Être, je pense, assez éclairé politiquement, sans forcément prêcher pour un parti ou pour l'autre.
C'est des gens qui ne disent pas la vérité.
C'est des menteurs.
C'est quelqu'un qui va s'informer, qui va analyser l'économie, que ce soit à une échelle nationale ou plus précise.
Qui aurait des solutions à proposer, pas des solutions farfelues, plutôt des solutions de bon sens, des solutions concrètes.
La population, je pense, connaît mal ce métier.
Si tu as une réaction à ce premier micro-trottoir sur l'économiste. Alors,
pour être un économiste, c'est vrai qu'en tant qu'économiste, j'ai croisé beaucoup d'économistes de types différents, donc il pourrait y avoir plein de réponses. Mais c'est vrai que la perception de ce que c'est que l'économie ou de ce que c'est qu'un économiste, en fait, est quelque chose qui est pas très bien appréhendé. Et d'autant moins, et où ça fait d'autant plus, ça questionne d'autant plus que l'économie, elle est partout dans nos vies, comme on l'a dit juste avant. Et donc, du coup, aussi, autant on arrive à peu près à reconnaître ce que c'est qu'un médecin, on a compris qu'il y a des spécialités de médecin, autant sur l'économie, ben, finalement, ce n'est pas très clair, quoi. Il y a un label général, et puis, en fait, je crois qu'il y a une perception assez mauvaise, en fait, du fait que, comme en médecine, ben, il y a plein de spécialités d'économistes.
Oui, c'est vrai hein, que c'est une discipline très spécialisée. Ça justifie d'ailleurs d'avoir 70 conférences, parce que chacun parle sur son domaine de compétences, point. Et ce qui m'amuse beaucoup, genre, c'est une chose qu'on a tous entendu quand on est économiste, c'est « Tiens, toi qui as fait de l'économie, quel est le meilleur placement pour... ?» Et là, c'est un moment très redoutable, où même les prix Nobel d'économie ont plutôt envie de s'enfuir, en disant « Non, on ne va pas vous répondre à cette question-là. Si vous voulez acheter des bitcoins, faites-le, mais ce n'est pas nous qui sommes responsables de votre choix. » Voilà. Et Cathy Verquin, peut-être pour la Banque de France, c'est peut-être intéressant justement de voir un peu la perception des économistes et des conseils qu'ils peuvent donner.
Oui, alors la question sur ce qu'est un économiste, j'ai un peu des scrupules à prendre la parole à côté de Pascal et de Vincent, qui sont eux de vrais économistes. Oui, alors moi, j'ai toujours été surprise quand j'ai commencé à faire des études d'économie, le fait d'entendre parfois des gens qui disaient « mais moi, l'économie, j'y comprends rien ». Ce que tu disais, l'économie, elle est partout. Et moi, le premier pont que j'ai pu faire, c'est moi, je suis une fille d'agriculteur, et moi, j'étais surprise que quand j'ai fait mes premiers cours d'économie, et j'entendais mon père parler des problématiques, par exemple, du prix du soja ou du prix du maïs, je me suis dit « ah, mais c'est un lien avec ce que moi, j'apprends dans mes études sur l'offre et la demande, l'évolution des prix ». Et puis après, il me parlait de l'impact, il disait ça dans le monde agricole, je ne sais pas si cette revue existe toujours, mais il me disait « bah oui, je suis le cours du change entre le dollar et le franc à l'époque ». Voilà. Et il disait, bah oui, parce que c'est un impact sur les tourteaux de soja que j'achète. Et finalement, je me suis dit, entre ce que finalement mon père vit au quotidien dans sa ferme, et moi, mes cours d'économie, en fait, on est totalement en lien. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que le fait de dire, mais moi, l'économie, j'y comprends rien, ça me semble complètement antinomique, parce qu'en fait, on fait tous un peu de l'économie. Alors, sur un économiste, j'ai quand même essayé d'un peu de structurer le propos. Je me dis qu'un économiste, finalement, c'est quelqu'un qui essaie d'expliquer ce qu'on ressent intuitivement. Voilà, ce que ressentait intuitivement mon père sur les problématiques des cours, des matières premières, du taux de change, de l'évolution du prix du pétrole, sur le prix du fret, et donc sur le cours du maïs et des tourteaux de soja qu'il achetait. En fait, on théorise finalement ce que intuitivement beaucoup de gens comprennent avec ce fameux bon sens. Ça, c'est un peu important. Ensuite, un économiste, moi, je pense qu'il permet aussi, quand il explique les choses, quand il explique bien les choses, il permet à ceux qui l'écoutent de moins subir. C'est-à-dire que quand on comprend, quand on est plus intelligent, ce que tu disais, ta promesse, c'est essayer que les gens, quand ils sortent des conférences, soient plus intelligents, soient plus sereins. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, quand on comprend, en fait, on subit moins. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis peut-être le troisième point, moi, je dis qu'un économiste, finalement, quand on l'écoute, quand on s'inspire un peu de ce qu'il peut expliquer, en fait, ça nous pousse à l'action. Ça nous laisse, on est moins fataliste. En fait, on a envie d'agir parce qu'on comprend les mécanismes. Par exemple, quand il y a trop d'inflation, eh bien, on sait que nous, on a des outils à la banque centrale. Et c'est vrai que parfois, les gens me disent, mais je ne comprends pas, quand il y a trop d'inflation, je ne vois pas le lien, pourquoi tu remontes tes taux ? Et quand j'explique le lien entre l'outil de remonter des taux et la lutte contre l'inflation, ah oui, d'accord, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi on a un petit traitement qui n'est pas très sympathique quand tu remontes tes taux, mais c'est pour lutter contre le dérapage de l'inflation. Même chose quand il y a trop de chômage, et évidemment le chômage est par définition parmi les principaux maux de l'économie, hein, pas MOTS évidemment. Et bien évidemment, là aussi, quand un économiste peut expliquer, bah oui, en fait, un taux de chômage, mais on a plutôt un taux de chômage sur les plus jeunes qui rentrent difficilement sur le marché de l'emploi ou sur les moins jeunes. Voilà, je veux dire que quand on arrive à expliquer les choses, moi je pense que ça pousse les acteurs économiques et les politiques, hein, à l'action, parce que quand on comprend les choses, on peut se mettre en mouvement et entrer en action.
Alors, on n'a pas préparé avant ensemble avec Cathy, donc j'allais exactement dire ce sur quoi on a prise. Donc je vais compléter ce qu'a dit Cathy. Ce qui ressort du micro-trottoir, de mon point de vue, c'est, à part l'apport des économistes qui sont des scientifiques, qui sont censés être pédagogues, vous en avez plein ici à Lyon 2, et qui permettent, entre autres, dans le cadre d'EGECO, de mieux comprendre les choses et de plus et mieux avoir prise sur son quotidien. L'étape d'après, il y en a des représentants dans la salle, et puis c'est ce que je peux apporter aussi en tant qu'élu local, c'est se donner les possibilités de débattre ensemble et d'orienter des choix politiques au sens de on gère ensemble la vie de la cité étant la cité où j'ai prise là tout de suite, mon quartier, ma commune, mon arrondissement, ma ville, le territoire sur lequel j'exerce ma profession, j'exerce aussi mon pouvoir de vivre, mon pays et ensuite l'Union européenne et le monde. Et je voulais mettre ça, donc il y a des économistes hein, qui font de l'économie politique d'ailleurs, mais peut-être aussi que ce micro-trottoir témoigne, il y a un lien de toute façon, je pense que vous l'avez pensé comme ça à la Banque de France avec les sources d'information, c'est remettre à sa juste place le scientifique au sens large du terme, le scientifique qui doit nourrir le débat et ensuite créer les conditions du débat. Et quand je disais dans la salle, il y a des représentants, nous à notre petite échelle territoire, par exemple, on a un enjeu sur des questions qui nous concernent au quotidien, l'accès à l'eau. La métropole de Lyon, elle a fait le choix de mettre en place un débat sur les usages de l'eau. Il y en a des représentants dans la salle, des usagers de l'eau, qui ont accepté de donner du temps et qui ont été éclairés par des scientifiques, pas nécessairement, je ne me souviens pas, je les regarde, mais pas nécessairement par des économistes, mais en complément de ce que disait Cathy, juste redire, bah, voilà, ça on le sait, hein, les algorithmes, ils n'aiment pas trop aller chercher la parole des scientifiques parce qu'elle est longue et étayée et on en a besoin. Donc heureusement, je chute là-dessus, heureusement qu'on a des temps de débats et de rencontres comme les GECO, mais comme d'autres qui sont d'ailleurs facilités par la Fondation pour l'innovation et les transitions ici sur notre territoire, qu'on a ces temps-là et qu'on a ces bases de données qu'on peut appeler et réappeler, et peut-être qu'on réappellera avec l'IA, j'en sais rien, mais en tout cas, je voulais remettre le sens de toutes ces démarches scientifiques, c'est de débattre et de faire de la politique et non pas de l'accroche qui plaît à certains médias, c'est juste de créer les conditions du débat pour décider ensemble du destin de notre territoire et plus largement d'autres échelles géographiques, là où on considère qu'on a prise et remettre dans nos enjeux du quotidien une vraie chance que nous avons ici ensemble, c'est la démocratie.
Pour prolonger ces réflexions, je vous signale qu'il y a quand même une conférence sur la place des scientifiques dans le débat public, dans le programme des Journées de l'économie. J'ai pensé à Agnès Buzyn, je ne la connais pas du tout, mais je me suis dit quand même, elle a beaucoup souffert pendant la période du Covid. Rappelez-vous, les bons petits remèdes qui étaient proposés en disant on n'a pas besoin de se vacciner. Je pense qu'on a eu un problème à un moment donné où c'est quoi la parole des scientifiques ? dans le débat public quand on est dans un moment aussi compliqué que celui-là. Et immédiatement, ça a réagi parce que les économistes se sont sentis très concernés, au-delà des médecins. Souvent, quand ils proposent des remèdes, ils sont à peu près autant critiqués que les médecins qui proposent la vaccination. Et on voit bien qu'il y a de multiples disciplines où vous pouvez avoir toute une vie de recherche derrière vous, d'avoir réussi à trouver des choses, et dans le débat public, vous n'arrivez absolument pas à imprimer quoi que ce soit. Vous avez des voix qui arrivent et qui vous disent « Moi, dans ma cuisine, je peux faire une recette et vous verrez, ça marche nettement mieux que tout ce que vous avez fait dans votre laboratoire. » Donc je pense que c'est extrêmement important dans les journées de l'économie, vous allez trouver ça omniprésent parce que ça a beaucoup questionné aussi les économistes. Je vous rappelle qu'Esther Duflo, l'an dernier, à la conférence d'ouverture, elle disait « Quand je dois soutenir une cause et qu'on me propose de signer, je réponds toujours « Vaut peut-être mieux que je ne mette pas mon nom parce que ça va vous desservir. » C'est-à-dire qu'on se méfie tellement des économistes parfois que il vaut mieux. Et il y a des économistes qui disent « Vaut mieux ne pas s'exprimer sur le sujet parce que si on s'exprime, en fait, ça va desservir ceux à qui on voulait rendre service. » Donc oui, on a beaucoup de travail à faire et peut-être que les GECO, on peut participer et qu'après, c'est vous qui pouvez être un peu le relais de ces réflexions. Je pense que quand même, quand des chercheurs travaillent toute leur vie sur un sujet, il faut un peu les écouter, même s'il faut relativiser, hein, parce qu'en effet, ils vous disent qu'il y a du pour et du contre, et ça les gens n'aiment pas du tout quand ce raisonnement balancé, il n'y a pas une opinion toute simple qui ressort, mais vous avez certainement quelque chose, en tout cas, qui éclaire un petit peu les termes du débat sur lequel on doit tous se positionner. Voilà, on va passer quand même à la troisième partie du micro-trottoir.
La troisième partie du micro-trottoir que j'avais un peu prévendue juste avant. Donc, la question est un peu bizarre parce que, je vous l'ai dit, c'est selon vous, la France est-elle encore une grande puissance économique ou selon vous, l'Europe est-elle une grande puissance économique? Je vous ai dit, il y a les trois petits points qu'on a laissés. En fait, là, on est vraiment parti de quelque chose qu'on entend partout, qui est en fait, chacun individuellement, on a une tendance à raisonner à quel niveau du collectif faut-il raisonner. Et puis moi, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait des gens qui me disent, mais en fait, cette question, elle, dans les gens qui étaient interrogés dans le micro-trottoir, elle est nulle en fait, parce que ça peut se faire au niveau du territoire, parce que ça peut se faire au niveau de la ville, parce que en fait, évidemment que les abstractions comme l'Europe ou la France existent, c'est des règles, ça produit des règles collectives. Mais donc du coup, on est parti un peu comme ça sur la question naturelle qui vient à chacun, qui est face au problème économique, quel est l'échelon pertinent pour y répondre. Et puis en discutant avec les collègues qui font le micro-trottoir, en fait, on s'est rendu compte que on est obligé d'orienter et donc là, on a orienté vers ce niveau. Mais vous allez voir du coup les réponses.
Oui.
Pas du tout.
La France n'est plus une puissance économique.
L'Europe devrait se renforcer.
Je pense qu'on a encore une grande puissance, mais qu'on a vraiment des points à améliorer.
Ah, c'est en train de tomber là, vraiment. Elle a eu un grand passé et c'est pour ça qu'on est encore présent, mais... Je pense que dans les prochaines années, elle va être totalement effacée.
Pour moi, il ne faut pas voir que le négatif, il y a aussi plein de points positifs en France.
L'Europe pourrait être une grande puissance, entre guillemets, qui fasse contrepoids, mais là, en ce moment, c'est un peu la galère un peu de partout.
Je ne suis pas sûre que ce soit encore une puissance économique. Je pense qu'on devrait aller regarder chez nos voisins en Espagne et aussi au Portugal, où aujourd'hui, ils ont réussi à remonter leur économie.
Donc, effectivement, je pense que l'Europe peut régler plein de choses. Je pense malheureusement qu'elle ne le fera pas. Pour des tas de raisons économiques et politiques.
Aujourd'hui, la France est pour moi amenée à se positionner au niveau européen.
Il y a des choses à changer. Je pense qu'il y a des choses à changer. On doit évoluer. On doit essayer de trouver des solutions. Voilà, même ne serait-ce que vis-à-vis des autres pays. Voilà, qu'on passe pas pour des guignols ou autres. On passe vraiment pour une nation forte.
On est un grand acteur au niveau de la politique européenne. Encore faut-il que les politiques derrière jouent le jeu dans ce cadre-là.
Si on prend en compte effectivement toutes les personnes riches qu'on a en France, je pense qu'on reste une grande puissance économique.
Je pense que beaucoup de pays européens ont le même souci aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette dualité entre les villes et les campagnes. Et pour moi, l'agriculture, elle est au cœur de ça.
Rien. La France, c'est plus rien.
Avec l'euro et tout, on est une puissance économique, il faut qu'on reste ensemble, on a beaucoup plus de poids.
Je dirais que la France quand même rayonne au niveau international.
Il faut arriver à ce que cette union soit une force pour se protéger des autres puissances continentales.
Vincent, qu'est-ce qui t'a pris de poser une telle question aux Français ?
C'est je ne sais pas. Si, il y a deux choses. Le mot puissance, parce que comme on est en plein retour d'une forme de géopolitique qui est assez marquée, en fait, la question de la puissance, c'est une dimension importante. Mais il y a une réponse, moi, qui m'a beaucoup, enfin, qui m'incite à l'espoir. Il y a quelqu'un qui dit, mais si on regarde l'Espagne et le Portugal, et si on regarde l'Espagne et le Portugal, et qu'on se rappelle il y a 15 ans, l'Espagne et le Portugal, il y a 15 ans, étaient dans une situation, quand on leur parlait aux personnes qui vivaient dans ces pays, ils nous disaient, ben, en fait, c'est l'horreur, c'est la catastrophe, on ne sait pas comment faire. Et puis, effectivement, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en Espagne et au Portugal, c'est des pays qui vont, des puissances presque, j'ai envie de dire, qui vont extrêmement bien. Et donc ça, c'est un motif d'espoir. Mais je laisse mes collègues...
Oui, je pense que c'est un sujet grand oral sur lequel vous allez pouvoir plancher en quelques minutes, simplement, sur l'avenir de la France. Cathy, est-ce que tu as une idée?
Oui, alors en rebond, je vais faire une présentation en deux parties, comme il faut être structuré. Ça ne sera pas très rock'n'roll. Un, la France, deux, l'Europe. Alors, sur la France, effectivement, je ne vais pas vous faire... effectivement, je pense qu'on aime tous notre pays, notre gouverneur le dit souvent. Je ne vais pas vous faire hein, la France, ma France, ça ferait un peu prétentieux dans cet amphi. Ceci dit, je pense que quand on parle de la France, notamment à l'étranger, quand on entend les Français qui en parlent, de nos pépites, je crois qu'on est souvent très fiers quand on parle de nos fromages. Enfin, franchement, il n'y a quand même pas meilleur que chez nous. Nos vins, bah, c'est pareil. Enfin, franchement, notre aéronautique, quand on voit qu'Airbus dame le pion de Boeing, voilà, nos produits de luxe, enfin, je veux dire... c'est pas la Chine qui va nous concurrencer là-dessus. Enfin, je pense qu'on est quand même très très fiers hein, et on a vraiment des pépites et je pense qu'effectivement on a une grande fierté quand on parle de toutes les ressources qu'on peut avoir en France. En même temps, je pense qu'il ne faut pas avoir trop de confiance. Alors, ce n'est pas trop le risque quand même des Français, parce qu'on est souvent plutôt à faire de l'auto-bashing. Ceci dit, quand même, il y a un point d'attention. Et finalement, c'est cette fameuse tragédie des horizons, quand on parlait justement du court terme, du long terme. À court terme, je ne suis pas très inquiète. C'est plus effectivement à long terme. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. J'ai recherché les chiffres. C'est l'exemple, par exemple, de l'Argentine. Quand on regarde l'Argentine dans les années 20, en fait, le PIB par habitant... Alors là, j'ai un peu une fixette. Moi, je regarde sur le PIB par habitant de tous les pays quand je voyage. Je regarde d'abord le PIB par habitant quand j'arrive dans le pays avant de regarder ce qu'il y a à visiter. Mais voilà, quand je regardais le PIB par habitant en Argentine dans les années 20, en fait, c'était le même en France. On avait le même PIB. Aujourd'hui, quand je regarde le PIB par habitant en Argentine, c'est 12 800 dollars par habitant. Et en France, on est à 46 000 dollars. Tout ça parce que, effectivement, dans les années 50-60, en Argentine, on a eu une gestion politique et économique catastrophique, avec vraiment des errements politiques et économiques, comme quoi il faut faire attention. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on est dans une bonne position qu'il ne faut pas faire attention, notamment à court terme. Alors, l'Europe, deuxième partie de mon plan. Sur l'Europe, souvent, quand je fais des présentations, quand je dis « nous, on pense que », je veux dire à la Banque centrale, on me dit « mais quand tu dis « nous », tu parles de qui ? De la Banque de France ou de la BCE ?» Dans les faits, quand nous, on dit « nous », à la Banque de France, en fait, c'est l'Europe, parce qu'on a une même zone monétaire, on a une même politique monétaire et on a des intérêts banques centrales qui sont des intérêts BCE. Donc nous, c'est l'Europe, ça coule dans nos veines de banquiers centrales. Et d'ailleurs, même quand je regarde un peu tous nos projets aujourd'hui, ce sont des projets européens, que ce soit sur le stockage des données, sur les aspects de souveraineté, on a des enjeux européens. Sur la supervision, c'est une supervision européenne. On parle beaucoup de l'Europe, de l'épargne et de l'investissement. Eh bien, c'est à l'échelle européenne. L'euro numérique, c'est à l'échelle européenne. Tous nos enjeux sont européens. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus trop on peut plus se payer le luxe de ne pas penser européen et de ne pas avoir des prévisions et un périmètre, un champ et une vision européenne. On ne peut pas se payer le luxe aujourd'hui.
Allez, pareil pour compléter. Alors, la question de la puissance et de la force, Vincent l'a bien dit, c'est quelque chose qui revient bien dans le débat médiatique. Et puis, inconsciemment, on cherche l'homme, la femme providentielle, le pays qui compte le plus dans le monde. Il y a ce sujet des populismes. Et forcément, alors, dans le rôle que j'ai d'élu local et avec le parti pris que j'ai, je vais aller plutôt sur la question de notre capacité individuelle et collective à résister au choc, à prendre soin ou à prendre acte de nos interdépendances, aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale et que dans nos territoires. Donc moi, je vais plutôt, si j'avais été interrogée dans le micro-trottoir, moi, je n'aurais pas dit « ta question est bête, Vincent », j'aurais dit « en fait, moi, j'oppose à la puissance la force du collectif, si on doit utiliser la force, et donc je questionnerais plutôt cette capacité qu'auraient certains territoires. Le territoire, ça peut être pareil, hein, mon quartier, ma commune, ma région, mon pays, mon continent, l'Europe, cette capacité à rayonner, à inspirer de l'intérieur par, alors Cathy a parlé du PIB par habitant, bah, par exemple la durée de vie en bonne santé des habitants et habitantes, donc cette question de la santé globale, par la capacité, il y a une conférence là-dessus, à donner envie à chacune et à chacun de mobiliser son pouvoir d'agir, son épargne pour celles et ceux qui en ont, pour soutenir à moyen et long terme des économies robustes, à mobiliser aussi la jeunesse et à entraîner la jeunesse à entreprendre pour répondre aux besoins d'ici, aux besoins de chacune et de chacun, aux besoins de nos territoires, plutôt qu'imaginer des horizons lointains avec des crypto-monnaies, etc. Donc je voulais ramener au centre ce sujet, en fait, du rayonnement, de la boussole du bien-être qui est travaillée par Éloi Laurent, entre autres, et qui est travaillée sur notre territoire, et l'opposer à la puissance d'un être, homme, femme, providentiel, dont on sait qu'une personne ne suffit pas à accompagner dans la vie un jeune enfant. Et ben, c'est pareil, je pense, pour le destin de nos territoires, de l'Union européenne et de du monde. Et je vais retomber sur cette question de la démocratie, de se donner les capacités à débattre ensemble, à tricoter ensemble, à faire ensemble face, c'est ce qu'a dit, je rebondis sur ce qu'a dit Pascal en introduction, face aux crises dont on ne peut pas échapper à ce qui est à l'œuvre, l'intensité des chocs que nous allons vivre. Il y a des hypothèses très fortes et l'homme, la femme providentielle ne fera pas face à ces chocs, je veux dire, naturels, qui sont soit pour certains qui le critiquent cycliques, soit pour d'autres qui sont issus de notre propre façon de gérer nos ressources et de créer de la valeur. Là, je fais écho à notre façon de faire vivre nos industries, mais depuis des centaines d'années. Donc, une fois de plus, merci au GECO de nous permettre de débattre aussi bien de la question de la mobilisation de l'épargne pour orienter un peu notre économie, que de cette question de comment on va transformer la politique agricole pour qu'elle fasse sienne les chocs à venir et répondre à un besoin essentiel qui est l'alimentation, pour vous donner deux exemples de moments que vous pouvez vivre dans les GECO.
Oui, merci Emeline. Je pense que la question était très intéressante, moi, parce que à chaque fois qu'on demande aux Français si la situation du pays ou la situation globale est bonne ou mauvaise, il y a toujours un pessimisme terrible. Et puis quand vous leur demandez ensuite, et vous à titre personnel, comment ça va ? Oh ben ça va bien. Et ça dérange pas du tout les Français d'avoir une opinion positive sur leur vie personnelle en disant bon ça va bien et puis avec les enfants et tout c'est formidable. Ah mais oui, bah, le pays lui par contre il court à la catastrophe comme s'ils habitaient pas le pays. Et on a tout le temps ça dans les sondages. Or derrière il y a plus large, c'est que très souvent quand on regarde un peu à l'échelle d'un territoire, ben, ça va pas mal. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même un très beau territoire. Je veux dire, les PME, les ETI, les grands groupes qui sont là créent de l'activité. Et quand on regarde les résultats, je pense que là, c'est Cathy qui serait mieux placée que moi, ben, ça va bien. Et il y a beaucoup de territoires qui vont bien. Moi, j'ai des origines bretonnes. Je peux vous dire qu'au Forum économique breton, eh ben, ils étaient tous très, très contents. Et ils ont passé leur temps à dire, ben, oui, nous, en Bretagne, ça va bien. Mais par contre, la France va mal. Tous les territoires vont assez bien, mais pas la France. Ça, c'est à court terme. En fait, c'est parce qu'en ce moment, oui, on ne voit pas trop de signes encore des difficultés qui se profilent. Mais il faut quand même l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il y a cette dualité dans la tête de pratiquement tous les Français. Il faudrait garder ça. Et derrière, c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu européen. Je vous signale que quand on a voulu passer à l'euro, pratiquement la moitié des Français étaient contre. Ils voulaient garder le franc. Vous le voudriez bien, le franc, aujourd'hui, là, à chaque débat politique, on aurait une petite dévaluation qui suivrait les conflits à l'Assemblée nationale. Vous iriez payer un petit peu plus cher votre plein d'essence chaque semaine. Ben, ça serait ça. Or, Pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire l'euro, à faire une monnaie unique, alors que dans d'autres domaines, on n'y arrive pas, et ça pourrait vraiment nous aider? Pourquoi on n'a pas un marché des capitaux européens? On préfère aller placer aux États-Unis, qui eux-mêmes, avec notre épargne à nous, viennent acheter nos entreprises? C'est ce qui est en train de se passer. Si on le racontait aux Français, il y en a beaucoup qui ne seraient pas contents du tout de ce circuit de l'épargne, car on est des gros épargnants, mais on n'a pas de marché des capitaux unifié. Et l'énergie? Ah bah on a des marchés nationaux de l'énergie. Pourquoi on n'a pas un marché européen de l'énergie? Pourquoi il n'y a pas un prix de l'énergie comme il y a une monnaie? Et puis les télécoms? Ah bah on est content, on a plein d'entreprises de télécoms, mais comment ça se fait qu'on n'a pas un système de télécommunication européen unifié? Et bah si vous écoutez Enrico Letta, je lui ai proposé d'intervenir en vidéo parce qu'il est parti en Chine, manque de chance. Si vous allez sur le site des Journées de l'économie, vous avez un entretien avec Enrico Letta qui, sur ces sujets, nous dit « mais c'est à portée de main. Si on fait un certain nombre de choses aujourd'hui, on va tous vivre mieux. Notre bien-être va s'améliorer, mais il faudrait se décider. » Eh bien, il faudrait se décider exactement. C'est quand même passé à très peu de choses, l'euro. Au lieu de faire 49-51, ça aurait fait 51-49, on aurait toujours le franc. Et là, essayez d'imaginer où vous en seriez aujourd'hui. Donc on a exactement les mêmes défis à surmonter, et on va pouvoir en parler pendant les journées de l'économie, parce que ça vous intéresse tous, le lien entre votre vie individuelle, personnelle, ce qui va vous arriver à vous et vos enfants, et les grands débats qui ont l'air très abstraits en économie. Eh bien, on va faire le lien, et vous allez voir, ça va quand même dépasser largement le débat budgétaire dans lequel la France est enlisée. À vous d'en profiter.